Radio Prague, les informations.
Bonjour, les quatre journalistes tchèques de la flottille pro-palestinienne sont sains et saufs. Activité d'espionnage des services chinois et russes en 2009 en République tchèque. Et en culture, le photographe Antonín Kratochvíl expose ses photos de la jeunesse dorée moscovite. Les quatre journalistes qui se trouvaient sur l'un des six bateaux de la flottille pro-palestinienne sont sains et saufs. La flottille qui se dirigeait vers Gaza a été assaillie par les forces israéliennes lundi matin. Au moins 9 activistes pro-palestiniens ont été tués et des douzaines blessés. Le consul tchèque en Israël, Dušan Králik, a indiqué que les journalistes tchèques seraient emmenés à Tel Aviv, d'où ils seront renvoyés dans leur pays. En 2009, les services du renseignement militaire tchèque ont enregistré des activités des services secrets chinois sur le territoire tchèque. D'après le rapport annuel des services tchèques, c'est l'espionnage technologique chinois dans le domaine de l'industrie de la défense qui représente la plus grosse menace, des activités qui représentent un danger pour les intérêts tchèques, mais aussi pour la sécurité de l'Alliance Nord-Atlantique, d'après le serveur internet de ces services. Ils ont également enregistré les activités des services russes qui ont cherché à obtenir auprès de la direction de l'armée tchèque des informations sensibles sur le projet du radar américain. Cette tentative d'espionnage a été arrêtée par les services tchèques et plusieurs diplomates russes ont été expulsés du territoire. Toujours d'après ces mêmes services de renseignement militaire, le nombre d'extrémistes de droite a diminué dans les rangs de l'armée en 2009. Ces services continuent toutefois de surveiller des dizaines de membres de l'armée suspectés d'entretenir des liens avec des organisations d'extrême droite. À l'automne dernier, l'armée avait été touchée par un scandale après des révélations sur le fait que certains soldats tchèques en service en Afghanistan portaient des symboles SS sur leur casque. Nouveau happening contre la nomination de Václav Kasík à la tête de la Philharmonie tchèque. Un peu moins d'une semaine après la première manifestation, les employés de la Philharmonie se sont retrouvés sur les marches du Rodolfinum pour protester, notamment contre le limogeage du précédent directeur. Et c'est un grand nom de la photographie tchèque qui expose à partir de mercredi dans la salle du Manès à Prague. Antonín Kratochvíl, reporter aux vies multiples qui a sillonné le monde de Tchernobyl à Bagdad en passant par le monde des stars de Hollywood, a photographié les clubs très privés de Moscou où vient s'encanailler la jeunesse dorée et riche de Moscou. À travers ce cycle de photos couleur et noir et blanc, le photographe américain d'origine tchèque jette un regard sur cette société post-communiste russe faite de contrastes violents et de disparités. Enfin en sport, vainqueur du 8e de finale qui l'opposait à Andy Murray, numéro 4 mondial, dimanche à Roland-Garros, le tchèque Tomáš Berdych affrontera Michael Juzny ce mardi. Ça va se jouer à peu, c'est un grand lutteur et les matchs sont toujours difficiles et exigeants avec lui, a déclaré le numéro 1 tchèque qui jouera son premier quart de finale à Roland-Garros. On finit par un mot de météo. Ce mardi, le temps reste couvert avec des précipitations abondantes au nord-ouest de la Bohême et en Moravie. Attention aux alertes inondations dans le pays. Les températures inférieures aux normales saisonnières se situent entre 11 et 15 degrés. Aujourd'hui, nous fêtons les Laura en République tchèque. C'est la fin de ce Flash Info présenté pour vous par Anna Kubichtin.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Les émotions liées aux élections législatives qui se sont déroulées en République tchèque les 28 et 29 mai et qui ont secoué l'échiquier politique national cèdent désormais la place à la réalité sobre des négociations post-électorales. Nous vous donnerons quelques détails à ce sujet. Ensuite, nous rappellerons la libération de la ville de Dunkerque, opération à laquelle des Tchécoslovaques ont participé. Nous vous présenterons aussi un entretien avec le chef d'orchestre français Pierre Bullet, qui s'est récemment produit avec un grand succès à Prague. La République tchèque sera-t-elle gouvernée par un cabinet de coalition des trois partis de droite, l'ODS, Parti civique-démocrate, Top 09 et les affaires publiques, ou bien par une coalition des deux premiers avec le soutien du troisième? La question demeure ouverte après les pourparlers du président de la République Václav Klaus avec les chefs des cinq partis qui seront représentés au Parlement. Ceci dans une situation où le vainqueur des élections, le Parti social-démocrate, avec cependant un potentiel de coalition très modeste, voire nul, demeure toujours en jeu. Les leaders des trois partis en question ont également ouvert des négociations mutuelles. Petr Nečas, chef de file de l'ODS, a formulé les priorités immédiates qui font leur unanimité.
Réduire le nombre de fonctionnaires à la Chambre des députés, diminuer les salaires des fonctionnaires publics, imposer leur indemnité, réduire l'immunité des députés et des sénateurs.
Les médias de ce mardi observent qu'en dépit de l'harmonie affichée, des divergences semblent apparaître entre ces trois partis en lice, concernant tant certaines questions de programme que la question de la distribution des fonctions ministérielles. C'est le poste du prochain ministre des Finances, sollicité à la fois par le numéro 2 de Top 09, Miroslav Kalousek, que par l'ODS, qui risque d'être au cœur d'âpres discussions entre ces deux partis. Ceux-ci trouvent en revanche un fort point en commun, une réticence prudente à l'égard des affaires publiques, formation caractérisée en général comme peu lisible et au sujet de laquelle le quotidien Lidové noviny a écrit. C'est la première fois qu'un parti possédant des liens très étroits avec les milieux influents du business pénètre au Parlement. En attendant la première session de la Chambre des députés, qui compte au total 200 députés le vendredi 11 mai, rappelons qu'elle aura en son sein 114 nouvelles têtes. C'est le fruit de l'initiative appelée la défenestration, lancée quelques semaines avant la tenue des élections et invitant les électeurs à éliminer les anciens au moyen du vote préférentiel. Beaucoup d'électeurs y ont prêté l'oreille et ont saisi l'occasion d'y caser quatre candidats figurant en dernière position sur la liste de tel ou tel parti. Du jamais vu aussi en ce qui concerne la représentation des femmes. Elles sont désormais 44 à s'être infiltrées dans un milieu réservé en Tchéquie fort majoritairement aux hommes. Le 9 mai 1945, Dunkerque a été la dernière ville française libérée par les troupes alliées, parmi lesquelles figurait la brigade blindée indépendante tchécoslovaque. 180 soldats tchécoslovaques sont morts à Dunkerque lors des combats en 1944 et 1945. Tandis que la ville célèbre cette année le 70e anniversaire de l'opération Dynamo et de la bataille de Dunkerque, elle a profité de l'occasion pour rendre hommage aux combattants tchèques, parfois considérés comme les oubliés de l'histoire. Pour la première fois depuis 1945, les Dunkerquois ont donc accueilli le week-end dernier une importante délégation tchèque, chargé de mission pour les événements culturels et historiques à la mairie de Dunkerque. Daniel Chomeuil en a dit plus au micro de Guillaume Narguet.
La ville a été libérée par les armées alliées, mais notamment la brigade indépendante tchécoslovaque du général Alois Liška. Et ce qui a marqué Dunkerque, c'est que ces Tchèques, beaucoup sont morts d'ailleurs et ont pendant plusieurs années été enterrés sur le pourtour de Dunkerque, mais également c'est que le général Liška a reçu en main propre lui-même du général allemand Frisius la reddition de la forteresse, entre guillemets, selon le terme allemand, de la forteresse de Dunkerque. Et cela, c'est arrivé le 9 mai 1945, donc dernière ville de France libérée, et ça s'est passé à Wormhout. Le général Liška en face du général Frisius, c'est donc lui qui a reçu ce texte de la reddition des Allemands qui libérait Dunkerque et qui nous redonnait l'espoir et la liberté.
Alors concernant ces soldats tchécoslovaques, il s'agissait précisément de la brigade blindée, une brigade indépendante.
Tout à fait indépendante.
Voilà, alors quel a été le rôle dans les opérations qui ont mené à la libération de Dunkerque ?
Eh bien écoutez, les Tchèques se sont battus aux côtés des autres soldats, malheureusement beaucoup ont été tués, et nous avons dévoilé hier une plaque dans les courtines du bastion 32, qui était le poste de commandement de l'amiral Avrial en 40, et ensuite le poste de commandant allemand, nous avons dévoilé une plaque avec les noms des Tchèques qui ont été tués sur Dunkerque, et cette plaque désormais est permanente à Dunkerque et permettra la mémoire. Bon, au niveau des actions spécifiques de la libération, je ne peux pas vous dire le détail, si vous voulez, du parcours des Tchèques, mais en tout cas, ils ont été extrêmement courageux et les Dunkerquois les portent au cœur. Vous aviez une autre question qui était de dire pourquoi avoir attendu si longtemps. Eh bien, ma foi, c'est que 65 ans sont passés aujourd'hui, que nous avons toujours appris, nous Dunkerquois, que les Tchèques nous avaient libérés, mais qu'il n'y avait pas eu l'opportunité d'une action de jumelage ou de coopération. Et il se trouve que notre maire, Michel Delebar, n'est autre également que le vice-président maintenant du Comité des régions d'Europe. Et il se trouve qu'il a rencontré le maire de Liberec à cette occasion et dans le cadre de ses actions européennes, qu'ils ont sympathisé, que Michel Delbar lui a dit « mais Dunkerque a été libéré par les Tchèques » et que c'est ainsi que les choses se sont faites ces derniers mois. Et le maire de Dunkerque a choisi justement le 70e anniversaire de l'opération Dynamo, qui a généré énormément d'événements tant culturels qu'historiques et de commémorations dans la ville depuis 4 jours, pour inviter une délégation tchèque, d'ailleurs pilotée par l'ambassadeur de la République tchèque en France, et le maire de Liberec, des jeunes de Liberec, des vétérans également tchèques qui sont venus à 53 renouer les liens avec Dunkerque. Et je peux vous dire qu'à partir de maintenant, il y aura notamment dans les domaines sportifs et culturels des échanges qui vont s'intensifier au fil des mois.
Le grand réformateur de la musique du XXe siècle, Pierre Boulez, s'est présenté au festival Printemps de Prague dans le rôle de chef d'orchestre et aussi dans celui de compositeur. Il est venu au festival avec l'ensemble Intercontemporain, formation qu'il avait lui-même créée en 1976. C'est avec cet ensemble qu'il a présenté ce dimanche dans la grande salle du Rodolfinum, avec un grand succès, des compositions de Varèse, de Montoni, de Ligeti et aussi sur Incise, une de ses propres œuvres qui échappe à toute classification. Dans un entretien accordé à Václav Richter, Pierre Boulez a parlé entre autres de l'œuvre de Leo Janáček, dont il est un interprète inspiré et qui occupe une place non négligeable dans son répertoire de chef d'orchestre.
Depuis quelques dizaines d'années, vous dirigez assez souvent les œuvres de Leo Janáček. Pourquoi Leo Janáček? Est-ce que vous pouvez comparer votre style de composition à celui de Leo Janáček, puisque on dirait que vous êtes des compositeurs aux antipodes l'un de l'autre?
Je le fais parce que ça m'intéresse. J'ai fait en particulier la messe Glagoliti, que je trouve vraiment intéressante. J'ai fait les deux Capriccio et le petit concertino de piano avec un tout petit groupe d'instruments. C'est-à-dire que c'est les œuvres de la fin qui m'intéressent, beaucoup plus que les œuvres du début. J'ai fait aussi, par exemple, les danses lachiennes. Mais ça, je trouve ça beaucoup moins intéressant. C'est plus conventionnel, dans un certain sens. Et c'est un homme qui a découvert sa personnalité de plus en plus tard. Et plus il est tardif, plus pour moi il est intéressant. Mais c'est quelqu'un que je prends beaucoup plus pour son originalité, sans être influencé directement, que pour, disons, l'influence que je rechercherais de sa part. Ce qui m'intéresse, c'est cet aspect marginal et qui devient plus important que le phénomène central. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, que quelqu'un comme ça a gardé une personnalité si forte. On jouait pratiquement jamais Janáček quand j'étais jeune, du tout. Et donc, je l'ai découvert relativement tard, surtout quand j'ai été en Allemagne ou en Angleterre. Là, on jouait déjà pas mal. Mais en France, c'est venu très tardivement. Je crois que la première impression, c'était la petite renarde rusée, parce que c'était avec ce metteur en scène est-allemand qui est venu donc à Paris apporter une mise en scène tout à fait nouvelle pour l'époque. Et c'était ça qui a brisé la glace, si je peux dire. Mais les œuvres comme la messe Glagoliti étaient encore très très rarement jouées. Et je suis un des rares à le faire à Paris, par exemple.
Est-ce que Janáček figure aussi dans votre discographie? Est-ce que vous avez envie ou l'intention de le faire figurer dans votre discographie?
Alors, il y a le DVD de La Maison des Morts qui existe maintenant. Et on devait faire... J'ai dirigé l'année passée au Proms avec la BBC et le chœur de plusieurs orchestres d'ailleurs. J'ai dirigé la messe glagolitique et on devait en faire un disque. Mais il y avait une des solistes qui n'était pas bonne du tout et finalement on a été obligé de renoncer à ça. Quand est-ce que ça se fera, je ne peux pas vous dire. Ça se fera certainement un jour, mais pour le moment le projet a capoté à cause d'un défaut capital, évidemment, parce que cette soliste était très importante. Et donc, ça n'a pas marché, voilà.
On dirait que pour vous, la musique commence par Wagner. Vous n'avez pas, de temps en temps, envie d'aller un peu plus loin dans le temps, de jouer aussi et de diriger aussi de la musique ancienne?
Si, c'est quand j'étais, par exemple, quand j'étais à New York ou quand j'étais à Londres, comme j'avais à faire tout le répertoire, en tout cas à me préoccuper de tout le répertoire, j'ai fait cela. Par exemple, j'ai fait des motets de Schütz, j'ai joué du baroque italien aussi, et en particulier Gabrielli. Mais j'ai fait cela et maintenant je dois dire que je me concentre sur des choses qui sont plus rarement jouées. Si on me propose de faire, je ne sais pas, baroque italien, ça je préfère faire encore les pièces de Schoenberg qui sont très, très rarement jouées. Par exemple, j'ai fait un concert récemment avec l'orchestre du Metropolitan Opera à New York. On avait décidé de faire Erwartung de Schoenberg parce que c'est rarement joué. Je préfère faire Erwartung dans ce cas-là. C'est plus indispensable. Je trouve dans mon rôle, je suis mieux dans ce rôle-là que d'explorer des musiques que beaucoup de gens explorent maintenant.
C'est tout donc ces faits événements en République tchèque. Notre programme en français se poursuit.
Panorama.
Panorama.
République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Bonjour Lukáš Macek, est-ce que vous aussi vous avez été surpris par les résultats des élections législatives ?
Effectivement, j'étais surpris. Je m'attendais à une victoire de la gauche ou au moins une victoire relative néanmoins solide. J'étais surpris aussi par les changements, par l'ampleur des changements des rapports de force au centre droit.
Et certains parlent en ce début de semaine d'une rupture dans la vie politique tchèque 20 ans après la révolution de velours. Est-ce que vous partagez vous-même ce point de vue?
Ça peut en devenir une si les faits suivront. C'est clair que c'est le plus gros changement sur la scène politique tchèque depuis au moins une douzaine d'années et peut-être même effectivement depuis le renouvellement de la démocratie tchèque. Donc oui, un potentiel pour que ce soit un moment de rupture, encore que il y a beaucoup d'éléments de continuité, notamment au niveau du parti Top 09 qui est un des grands vainqueurs de ces élections. Il faudra voir si c'est un parti de rupture ou finalement si c'est un simple recyclage des forces politiques et des personnalités politiques qui ont déjà été présentes et qui portent la responsabilité de l'évolution des 20 dernières années.
L'hebdomadaire Respect, en ce lundi matin, titre « La débâcle des grands ». Est-ce que c'est, selon vous, le principal enseignement de ce scrutin législatif, la débâcle des grands partis ?
Oui, c'est vrai que si on regarde les pertes en voix, en nombre absolu des plus gros partis, clair. L'EDF, par exemple, a perdu à peu près 44% de votes par rapport à 2006. C'est énorme. C'est similaire pour les sociaux-démocrates. Donc, tout à fait. Et ceci dit, il n'y a pas que les grands qui sont tombés. Il y a, je dirais, les grands et les anciens. Parce que si vous regardez un autre élément très... Même si c'était prévu, c'est quand même frappant de voir que, effectivement, les chrétiens-démocrates, pour la première fois depuis... j'ai envie de dire depuis toujours, ne seront pas représentés au Parlement. Là encore, certes, il s'agissait d'un petit parti, mais un parti qui était perçu comme inamovible.
Des deux nouvelles formations politiques tchèques qui ont réalisé des scores à deux chiffres dans ce scrutin, on sait que Top 09, c'est plus ou moins du neuf fait avec du vieux. Mais comment, selon vous, est-ce qu'on peut définir ce parti qui est beaucoup moins facile à saisir que son affaire publique Vietsi Vierjainé?
Vietsi Vierjainé sont effectivement sans doute le phénomène le plus neuf de tout ce qu'on a pu voir dans ces élections. C'est un parti qui, pour le moment, n'a pas un positionnement idéologique tout à fait clair, ou au moins c'est un positionnement qui n'est pas facile à décrire en termes traditionnels. Ceci dit, même pour ce parti, si on regarde un tout petit peu sa genèse, si on regarde les personnalités qui apparaissent ou les personnalités que ce parti cherche à attirer, on retrouve quand même des repères qui permettent de situer ce parti par rapport à la société tchèque. Très clairement, c'est un parti qui tend à la fois au niveau de son programme et au niveau de son personnel politique à faire partie du centre droit. D'ailleurs, les réactions à la défaite des sociaux-démocrates et au départ de M. Paroubek ont clairement montré là encore que ce parti se percevait, se situait lui-même plutôt du côté du centre droit. Néanmoins, c'est un parti qui a réussi à gagner presque, on pense, des voix avec une rhétorique assez largement basée sur la dénonciation de ce qu'on fait après l'establishment, avec une rhétorique assez contestataire, et comme toujours pour ce genre de parti, le passage à une prise de responsabilité peut être extrêmement délicat. Les précédents ne manquent ni dans la politique tchèque ni dans la politique européenne, et donc ce sera effectivement intéressant de voir comment ce parti saura gérer ou ne saura pas gérer ce passage d'une opposition tout azimut à l'establishment à un parti de gouvernement.
Ça, c'est dans le cas où VV, Vietsi Vierjainé, ferait partie de la nouvelle coalition. Alors justement, c'est à nouveau le président Klaus qui se retrouve au centre du jeu politique tchèque. Quelle est, selon vous, la marge de manœuvre du chef de l'État?
Je pense que si on s'en tient à l'esprit de la Constitution, relativement faible. Si on s'en tient à la connaissance de la personnalité de Václav Klaus, elles sont bien plus larges et probablement il ne se privera pas de s'en servir. C'est clair que le moment après les élections est sans doute le moment où le président de la République, même constitutionnellement, gagne en influence. C'est sans doute le moment clé pour un président, l'un des rares moments où il peut réellement influencer la scène politique. Ceci dit, Václav Klaus se plaisait souvent par le passé à critiquer son prédécesseur lorsqu'il considérait qu'il prenait des initiatives qui était jugé peu orthodoxe par Václav Klaus. J'espère que là encore, il faut espérer qu'il sera cohérent avec lui-même. Je pense qu'il a le choix entre deux options qui sont défendables, mais je n'en vois pas d'autres. Ces deux options, c'est soit nommer le leader des sociaux-démocrates, le nouveau leader sociaux-démocrate, puisque nominalement c'est ce parti qui a gagné les élections, ou éventuellement passer directement la main à Petr Nečas, le leader de l'ODS, suite à des consultations avec les différents partis, de voir que une nomination d'un social-démocrate serait une pure perte de temps puisque aucun parti ne souhaite monter une coalition avec les social-démocrates. Voilà, je pense que c'est les deux façons de faire légitimes. Toute troisième variante surprenante avec la nomination d'une autre personnalité me paraîtrait très peu légitime au.
Dernière question, Lukasz Matzek. L'Union européenne a été quasiment absente du débat préélectoral, à part pour parler de la crise grecque et de l'euro. Est-ce que la personne du nouveau Premier ministre et la formation d'une coalition, quelle qu'elle soit, peut changer l'orientation de la République tchèque et la position de la République tchèque dans l'Union européenne, ou pas du tout, comme l'ont fait remarquer certains commentateurs qui ne pensent pas que la formation ou la configuration de la nouvelle chambre basse du Parlement puisse changer quoi que ce soit?
A priori, sur tout ce qui concerne la politique européenne ou encore la politique étrangère, je pense que les éléments de continuité l'emportent très nettement par rapport à des variantes qu'on aurait pu imaginer avant les élections, notamment une variante avec une participation directe ou indirecte du Parti communiste. Là, on aurait eu sans doute un risque de rupture majeure dans la politique internationale de la République tchèque. Là, je pense que c'est la continuité qui l'emporte très nettement. Vu l'affaiblissement de l'ODS et le renforcement de deux partis qui, a priori, se profilent comme plus pro-européens, d'une certaine manière, que l'ODS, on pourrait peut-être s'attendre à la poursuite de ce qui a déjà commencé, c'est-à-dire de l'infléchissement des positions eurosceptiques de l'ODS. C'est un parti qui est un peu divisé sur cette question. C'est un parti qui, pendant des années, s'est conclu dans une attitude dure et dans une attitude assez radicalement eurosceptique. Ça a commencé à changer au moment de la présidence tchèque de l'Union européenne. Je pense que l'expérience gouvernementale aux côtés de deux partenaires relativement forts et pro-européens pourrait accélérer et peut-être rendre irréversible cette évolution de l'ODS d'un euroscepticisme dur proche de Václav Klaus à une position qui certainement restera circonspecte, mais qui deviendra plus constructive au niveau européen.
Lukáš Macek, je rappelle que vous êtes directeur de Sciences Po Dijon. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions.
Merci à vous. Au revoir.
Cet entretien qui a porté sur les résultats des élections législatives en République tchèque a été réalisé par Alexis Rosenzweig. Et c'est tout dans ce programme en langue française de Radio Prague d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, je vous dis au revoir, à demain.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kHz a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.